Moi, finalement, comment je vis la ville? Comment je la perçois sur cet axe de justement d'émancipation ou d'aliénation, quoi. Tu vois, un petit essai d'auto-psychanalyse sauvage. Et je me suis rendu compte que la première chose qui me bloque, et ça explique ce qui va se passer après, ça explique ce que je fais, je pense, ça explique ce que je vais développer en termes créatifs. Première chose immédiate que je ressens, c'est que pour moi, c'est un espace trié. Au sens deleuzien, je ne sais pas si vous connaissez espace lisse, espace trié chez Deleuze. C'est-à-dire que c'est un espace qui constamment est quadrillé, a des coordonnées, a un référentiel. Et ce n'est pas ce fameux espace lisse, c'est-à-dire cet espace où vous pouvez vous balader sans aucune limite, bordure, coupure, etc. Donc, première chose qui, moi, me bloque et gêne cette idée d'émancipation, c'est ce triage permanent de la ville. La deuxième chose est assez évidente, et je vais en parler beaucoup, c'est que pour moi, la ville, c'est un espace contrôlé. Voilà, c'est d'abord un espace contrôlé. Moi, j'appelle ça l'œil dans le ciel, comme ça. Sauf que l'œil, aujourd'hui, c'est les bornes de triangulation des portables qui permettent de géolocaliser n'importe qui à n'importe quel moment, quoi. Donc, c'est un appareil, pour moi, c'est vraiment un appareil de capture. Voilà, c'est un appareil où, effectivement, les caméras tournent, où il y a des capteurs un peu partout, des senseurs un peu partout, où il y a une surveillance qui est naturelle, généralisée. Et cette espèce de modèle schématique qu'on trouve dans beaucoup, effectivement, de films ou de livres de SF, qui est que la ville est une prison, ou est conçue plus ou moins comme une prison, c'est quelque chose qui, pour moi, est totalement naturel aussi. Je le perçois comme ça. On a beau avoir un ciel au-dessus, le ciel lui-même n'est qu'une immense caméra qui va nous contrôler. Il y a un texte de Kadi qui s'appelle « L'œil dans le ciel », comme ça, d'ailleurs, qui est très probant là-dessus. Donc, par rapport à ça, pour moi, une vision d'émancipation dans la ville, ça serait d'avoir une forme de gratuité, une forme d'innocence des espaces. Ensuite, ça m'est peut-être personnel, mais pour moi, c'est un espace, la ville, où on vient toujours après. J'ai toujours le sentiment d'arriver après, quand je vais sur une place, quand je vais sur un pont, je vais sur le pont des Arts à Paris, etc. J'ai le sentiment qu'il y a un milliard d'amoureux qui est déjà venu sur ce pont, a vu la même vue, a pris les mêmes photos, etc. Donc, c'est quelque chose, moi je suis un peu côté Walter Benjamin, j'ai l'impression que ça a été reproduit, puis reproduit, puis reproduit encore des milliards de fois, et que je viens m'inscrire dans cette reproduction. Donc pour moi, il n'y a plus de création possible, il n'y a plus de nouveauté possible à l'intérieur de l'espace de l'urbain, quoi. Et ça va jouer sur pas mal de choses aussi, quoi. Ensuite, il y a l'idée qu'on retrouve souvent, mais qui, moi, me frappe aussi, parce que j'ai vécu beaucoup en Corse, hein. Donc, quand j'écris La Horde du Contrevent, j'étais en Corse pendant 3 ans. Pour préparer La Horde, j'étais 4 ans dans le Vercors, en pleine nature. J'ai vécu aussi dans l'Oisans, dans le Parc des Écrins. Voilà, à Marseille, je suis au bout de la ville, au bord des Calanques. Donc, j'ai vraiment un rapport très, très distancié comme ça à la ville. Et la première chose qui me tue, généralement, quand je remonte à Paris notamment, quoi, c'est cette idée de saturation. Voilà, saturé de sollicitations, saturé de signes, saturé d'hommes, saturé de bâtiments. Voilà, il y a une espèce d'hyperdensité qui conjure complètement l'idée pour moi de libération possible et d'émancipation. Et ça s'oppose à cet espace dont parlait aussi Alain, cet espace de virginité, cet espace pionnier. Quand il disait que les Américains, ils prenaient taureau, etc., qui, avec cette idée que, voilà, quand ils arrivent aux États-Unis, bon, après avoir massacré tous les Indiens, il y a un espace qui s'ouvre devant eux. Et il y a ce côté pionnier, exploration, découverte et appropriation d'un espace qui est complètement vierge et libre. Je pense qu'on garde en nous ce côté-là, et la ville, c'est exactement l'envers de ça. C'est exactement l'inverse de ça. C'est un espace qui a déjà été occupé, saturé et reproduit, quoi. Et puis, dernière chose, et là, c'est mon côté, oui, taureau, je le revendique, c'est pour moi, voilà, l'espace où on veut se tenir chaud, où il y a une fausse fraternité qui se met en place. Moi, j'ai toujours été surpris, par exemple, que les clochards s'installent en ville, alors qu'il y a des tonnes de villages en France qui sont extraordinaires pour s'installer ou vivre 10 fois mieux. Voilà, cet espace de fausse fraternité et qui s'oppose pour moi à un vrai espace de ressourcement qu'apporte justement la nature, mais ça, c'est des thèmes très traditionnels. Voilà. Donc, pour être super simple, la ville, moi, je la vis comme un piège. Voilà. Pour moi, la ville est un piège et ça va se traduire effectivement dans beaucoup de choses que je vais produire. Alors, ce que je vais faire, je vais attaquer, ça va être très bâtard, hein, ce que je vais vous présenter, parce que je vais faire un mélange entre mes propres recherches intellectuelles, spéculatives, etc. Moi, je lis beaucoup de sociologie, de philosophie, j'aime bien l'architecture aussi, donc je me nourris beaucoup de ça pour créer. Et en même temps, j'ai cette pulsion un peu de romancier, de narrateur, de créateur d'histoire, qui vient ensuite féconder un peu ce matériel de recherche et essayer de bâtir des mondes un peu neufs qui permettent justement d'extrapoler ce qu'on est en train de vivre, parce qu'on interroge beaucoup le présent. Et donc, je vais vous montrer un peu ce cheminement. Donc, vous allez voir, ça va se percuter entre des moments un peu philo et des moments purement qui paraissent presque anecdotiques, tellement ils sont liés à la narration. Donc, la zone du dehors, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont lu ici, non? Bon, juste un petit test. Ah oui, quand même, il y a des lecteurs. D'accord. Donc la zone du dehors, en deux mots, donc c'est un satellite de Saturne dans lequel donc la Terre a été toujours le principe catastrophiste. La Terre a été déchirée par des guerres. Donc une partie de l'humanité, notamment 7 millions d'individus, s'est installée dans un satellite de Saturne et a créé une ville de toutes pièces. Cette ville, elle s'appelle Cerclon, et on comprend très vite pourquoi. Hein. Sa structure donc est faite en cercle avec un cercle central qui est celui du pouvoir ici. Et tout autour des cercles qui, selon qu'ils sont plus ou moins loin de la rad zone c'est la zone qui est ici, c'est-à-dire du cube radioactif dans lequel on met tous les déchets de la ville, plus vous êtes loin de cette version radioactive, plus vous êtes dans des quartiers riches. Alors le principe, on le voit très bien, c'est un principe d'amphithéâtre, c'est même un principe d'arène quasiment, vous voyez les bâtiments sont disposés comme ça, pour converger vers un point central. Mais ce point central, c'est exactement l'inverse d'un spectacle, puisque dans ce point central, il y a la tour panoptique. Donc on est sur un système, une sorte d'extrapolation, de radicalisation du thème de Foucault, qui m'avait énormément influencé et impressionné. J'avais 22 ans quand j'ai commencé la zone, et je tombe sur Surveiller et punir. Et là, Surveiller et punir, je prends une vingtaine de claques à chaque page, et dans ce livre, hein, pour ceux qui l'ont lu, il y a cette fameuse description du panoptique de Bentham, hein, ces prisons où, à l'intérieur, on a une tour centrale dans laquelle il y a un seul surveillant. Et ce surveillant peut regarder, comme les rayons d'une roue, dans chaque cellule, ce que fait le prisonnier, si le prisonnier est là ou pas, parce que la lumière rentre à l'opposé de lui, et le prisonnier se découpe comme ça, en contre-jour, dans sa cellule. Et donc, la grande force de Foucault, évidemment, c'est de montrer que ce système, il existait en prison, mais qu'il est en train de se généraliser un peu dans tous les espaces fermés. Et arrive derrière Deleuze, qui reprend le thème de Foucault dans son bouquin, justement, qui s'appelle Foucault, et qui montre que ce système du panoptique, c'est carrément un concept, et que ce système est en train d'essaimer en milieu ouvert. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, le système du panoptique, avec la généralisation des caméras de surveillance, etc., avec toute l'opto-électronique, on va avoir un panoptique dans la ville, et la ville va être conçue, tout en restant un milieu parfaitement ouvert, va être conçue comme une prison, en tout cas, comme un espace qui est parfaitement surveillable à n'importe quel moment, et pour n'importe qui. Et du coup, moi, ça m'avait tout à fait intéressé, et du coup, j'avais cherché une version architecturale très incarné de ça, et j'avais donc posé qu'au centre de cette ville, donc les bâtiments sont construits en gradin, c'est-à-dire que les bâtiments à l'arrière du quartier sont les plus hauts, et plus vous êtes près, plus les bâtiments sont bas. Donc quand vous êtes dans la tour panoptique, vous pouvez très facilement regarder ce qui se passe dans les appartements de la ville. Et il y a tout un système de caméras infrarouges, de caméras à zoom, etc. Mais moi ça me fait rire aujourd'hui, parce que c'est super low-tech en fait, c'est super low-tech comme idée. Parce que, je veux dire, c'est quand même super fastidieux de construire une ville comme ça, d'avoir ces fameuses jumelles, caméras, etc. En plus, il y a des petits systèmes de miroirs pour voir derrière les bâtiments et tout. Mais quand tu réfléchis deux secondes, tu te dis, c'est super schtroumpf hein, comme idée. Parce que aujourd'hui, on a l'équivalent en mille fois mieux avec votre petit objet, le mat totalitaire là, qu'on a dans les poches, c'est-à-dire le portable. Où le portable te le géolocalise à n'importe quel moment, te suit en permanence et permet d'obtenir des métadonnées beaucoup plus intéressantes que de filmer directement quelqu'un à partir d'une tour. Mais ça fait rien, l'intérêt quand même de l'idée pour moi, c'est d'incarner, c'est ça aussi le principe de la science-fiction, c'est qu'on incarne les idées, on les pose dans le réel de façon généralement assez abrupte, assez grossière, même assez métaphorique, et on les fait fonctionner. Et en les faisant fonctionner, on crée ces effets de miroir exactement comme le texte « La lumière éternelle » dont tu as parlé, qui est une super idée, moi, je trouve, quoi, d'inverser le nord-sud de façon brutale. Voilà, donc ça, c'était la zone du dehors. Donc, vous voyez, à partir d'une idée, je dirais, philosophique et architecturale, on arrive à faire fonctionner un récit, parce que, évidemment, cette tour panoptique va servir aux philosophes révolutionnaires à réfléchir à la façon de contrer le gouvernement. Deuxième exemple que je voulais vous parler, c'est une nouvelle que j'aime beaucoup, qui est dans aucun souvenir assez solide, qui s'appelle CAPTCHA. CAPTCHA, vous savez que c'est l'argot pour dire capture. Et ça faisait longtemps que je voulais travailler sur l'idée des capteurs. On fait de la veille technologique, hein, quand on est auteur de SF, on est un peu obligé, et puis on est fasciné par ça aussi. Et je suis très frappé, depuis une dizaine d'années, de la généralisation des prototypes de capteurs. On dirait que toute l'industrie et la recherche tournent autour de la capacité à fabriquer les nouveaux senseurs et les nouveaux capteurs. Alors, on a tout type de capteurs aujourd'hui. Alors, évidemment, on a les capteurs biométriques, on a les capteurs olfactifs, on a des nez électroniques, on a des capteurs de poids, de masse, on a des capteurs sonores, on a des vous savez, maintenant, des capteurs qui sont capables de reconnaître une mélodie quand elle est jouée dans un bar. Mais bientôt, je pense qu'on aura des capteurs d'empreintes sonores, c'est-à-dire qu'on demandera aux gens non seulement de mettre le pouce sur pour avoir l'empreinte digitale, mais on demandera d'avoir une empreinte vocale, comme ça, ça permettrait de savoir qui est où, à quel moment, etc. Je crois beaucoup qu'on va générer ce type de banque de données aussi. Bref, il y a cette génération. Et puis, je voulais faire un texte là-dessus, un texte sur pas didactique, un texte qui porte une vraie énergie narrative. Et je suis parti d'un délire. Vous avez lu CAPTCHA, non ? Il y en a qui l'ont lu ? Ouais. Donc le principe, c'est très très bizarre cette nouvelle. T'as un groupe d'enfants comme ça, qui ont entre 5 et 10 ans, qui vivent sur un bord de plage, comme ça ils se nourrissent de brochettes, de touches de clavier, et puis de pizza de disque dur, enfin ils bouffent des trucs assez délirants. Il y a une mère de lait qui déferle derrière eux, on comprend pas trop pourquoi, enfin bref. Et en face d'eux, il y a une ville. Et la ville, alors là c'est le modèle pur de la ville pour moi, la ville elle est entièrement nue, il n'y a absolument rien dans cette ville, mais cette ville est saturée de capteurs. C'est-à-dire que sur tous les poteaux, sur tous les bâtiments, etc., il y a des caméras biométriques infrarouges, il y a des oculomètres pour suivre le trajet de l'œil, etc. Et chaque jour, il y a quelque chose qui s'appelle la ruée. Chaque jour, il y a un gamin qui va se dévouer pour tenter de traverser la ville. Parce que de l'autre côté, vivent les parents. Et les parents, quand ils font des gosses, on ne sait pas pourquoi, mais les gosses, ils naissent dans le sable de l'autre côté de la ville. Et donc, les parents et les enfants sont systématiquement séparés. Et donc, les enfants essayent de faire le lien. Et le principe, c'est que quand ils commencent à traverser la ville, s'ils sont pris par un capteur, ils se dématérialisent selon le capteur. Si par exemple, il y a un oculomètre donc qui suit le trajet de la pupille et qui vous attrape dans son champ de vision, vous devenez aveuglé. Si une caméra biométrique vous attrape, vous perdez les traits de votre visage, vous devenez tout lisse, c'est-à-dire que les traits qui définissent votre visage disparaissent, sont dématérialisés. Si vous passez sur un capteur de poids, vous perdez votre gravité et vous commencez à décoller comme ça sur le truc. Si vous parlez, etc., on vous capture la voix, vous devenez muet, etc. Bon. Et ce phénomène est assez intéressant parce que les gamins qui traversent, du coup, se trouvent dématérialisés et ils ne meurent pas, ils passent dans le réseau. Donc, ils passent dans le monde virtuel et ils deviennent, alors, pour ceux qui ont le plus de chance, ils deviennent des MMORPG, c'est-à-dire des jeux vidéo massivement multijoueurs. Donc, ça, c'est dans le bon cas. Puis, parfois, tu deviens juste un GIF animé, quoi, tu vois. Ou juste un bout de texte était piégé comme ça dans le réseau. Donc c'est une sorte de mise en tension entre la pulsion comme ça de désir du virtuel et une espèce de subversion du cadre ontologique, c'est-à-dire de se dire que dans le virtuel c'est fabuleux parce qu'on n'a pas de poids, on n'a pas de fatigue, on peut mourir autant de fois qu'on veut, on va à la vitesse lumière, etc. Et la tension avec le réel qui est très dur, mais qui en même temps, on est tiré les autres. Bref, donc il y a tout un truc comme ça. Mais voilà, en tout cas, c'était une réflexion sur les mécanismes de capture et une sorte de mise en scène de ça. Il y avait aussi, je vous donne les exemples et après on parlera plus de la ville d'aujourd'hui. Il y avait So Far Away, qui est une autre nouvelle que j'ai écrite, où c'est une ville de phares, comme ça. Donc tous les habitants habitent dans des phares. Et là, je voulais beaucoup parler de ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire l'espèce de surcharge informationnelle dans laquelle on vit, qui fait que tout le monde veut émettre. Tout le monde émet sur son blog, tout le monde fait des textes, tout le monde fait des vidéos, des photos, etc. On est dans une sorte de surémission, de surexpression individuelle. Et que du coup, dans cette ville, on ne peut plus choper ce que dit le pinceau d'un phare, parce que chacun s'envoie des messages lumineux, comme ça. Mais la nappe lumineuse est tellement intense qu'on n'arrive plus à déceler les messages fondamentaux dont on a besoin, et notamment, donc, il y a une histoire d'amour entre un homme et une femme, et elle est enceinte, et lui, il essaye de la rejoindre, mais il n'arrive pas à décoder les messages qui sont envoyés, etc. Et en même temps, il y a toute une réflexion sur la ville, parce que régulièrement, il y a une marée comme ça qui arrive, et la marée, c'est une marée d'asphalte, comme ça, qui déferle sur la ville, et les gens sont bloqués dans les voitures sous la marée d'asphalte pendant un certain nombre de jours. Et une fois que la marée d'asphalte est passée, ça construit des parkings, des villes. La ville se construit par cette espèce de sève de bitume qui arrive régulièrement et qui construit des nouveaux éléments. Donc une vision un peu organique de la ville comme ça, un peu étrange. Mais voilà, la ville m'a servi ici à poser la question de... c'est ce que je dis là dans le petit texte que je vous ai mis en... Voilà, je vous lis le texte comme ça donnera un peu une idée aussi. Il faut beaucoup de silence pour entendre une note. Il faut beaucoup de nuit pour qu'un éclair puisse jaillir. Pour qu'une couleur neuve soit perçue, soit reçue. Si j'en avais le pouvoir, j'émettrais aujourd'hui un trou noir. Quelque chose comme un cône d'extinction forant en ventre l'épaisseur du jour, pour rouvrir l'espace. Ce qui me terrifie, ce n'est pas le chaos de clarté qui brouille la ville comme une avalanche de soleil, c'est qu'il n'y ait plus nulle part une seule ombre. Tout est férocement surexposé, mais rien n'est posé, ni tranché. Voilà, donc ça c'est le gars qui essaye évidemment de avec son petit phare d'émettre de la lumière et puis qui peut plus dans cette avalanche de soleil. Hein, qui, voilà, et puis on va arriver aux furtifs, parce que là les furtifs ça va permettre de développer beaucoup de choses et de vous montrer là où est l'état de ma réflexion là-dessus. Donc les furtifs, alors comment expliquer, le roman est assez, l'univers est assez compliqué, mais je vais partir des êtres mêmes. Donc les furtifs c'est des êtres faits de sons, c'est-à-dire qu'ils naissent d'une vibration fondamentale comme ça. Et cette vibration part comme ça dans l'air. Et alors, on ne sait pas d'où naît le son originel. Hein. Ce son originel, on l'appelle le frisson, c'est une sorte de groupe, c'est une sorte de sample, comme ça. Et en tout cas, cette résonance et cette vibration fondamentale va frapper la matière et met la matière en résonance. Et quand la matière est mise en résonance, un être commence à se créer. Alors, ce qui peut être mis en résonance, c'est une bouteille c'est une bouteille de verre, c'est une canette de coca, c'est un morceau de plastique, c'est une branche d'arbre, ça peut être un bout de métal, peu importe. Et la résonance rentre et la bête commence à prendre forme et elle devient un mélange comme ça de minéral, de végétal, d'animal. Donc ça devient une sorte de on va dire d'animal pour être simple, hein. De l'ordre pour vous donner l'image mentale d'un écureuil ou d'une souris, etc. Et la particularité, c'est que ces furtifs, ils vivent dans l'angle mort de la vision humaine. Voilà, c'est-à-dire que partout où vous ne regardez pas, ils sont. Voilà, c'est des êtres qui sont de chair, hein, ça, ils existent, ils sont là dans la pièce, hein. Mais ils sont, tac, hop, sous la chaise ici, ils sont cachés dans un angle mort, donc personne ne regarde, tout le monde me regarde, et ils sont planqués à l'endroit. Ils ont des facultés mimétiques énormes, ils se déplacent à la vitesse du son, ils sont capables de créer des leurres sonores pour vous perdre, etc. Et pourquoi ils sont là? Alors pourquoi je crée tout ça? C'est que je cherchais une incarnation de la forme la plus haute du vivant pour moi, et surtout une incarnation de l'envers de la société de contrôle. Voilà, parce que j'écris la zone dehors sur la société de contrôle, telle que Deleuze la pose. Et en 20 ans, ça a explosé, c'est-à-dire que ce que imaginait Deleuze et ce que j'avais moins anticipé dans ma petite zone du dehors, on a été débordé à une vitesse extraordinaire parce que le technocapitalisme a mis en place les réseaux, c'est-à-dire Internet essentiellement et les smartphones, qui fait qu'aujourd'hui on vit dans le régime de la trace, quoi. C'est-à-dire que pour moi on est des chiens, quoi. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à renifler le cul numérique des gens. Et à repailler, data miner, corréler les traces numériques qu'on laisse à la fois sur les réseaux et dans la ville, puisqu'on veut étendre ça à la ville. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer dans les furtifs comment je bâtis la ville et qu'est-ce que j'essaye d'en faire. Voilà, donc intuition sur la ville qui vient, hein, ça c'est un petit clin d'œil à l'insurrection qui vient. Voilà, donc avec un superbe graphe de Banksy, vous devez connaître le graffeur anglais qui est extraordinaire, j'adore ce graphe. Il dit tout en très peu de choses. Alors, première chose, j'en ai parlé, donc les villes ont été rachetées, d'accord, avec système donc de toujours un standard premium privilège. Savoir aussi que dans mon roman, et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est là quand je dis qu'il faut mettre en scène aussi la résistance, c'est qu'on a racheté que les plus grosses villes. Mais il y a certains villages, il y a certaines villes qui n'intéressent personne, quoi. Je dis racheter quand c'est bizarre, mais... Je voulais savoir si vous étiez bien. Encore vivant, ça marche. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a des villes qui n'intéressent pas parce qu'elles n'ont pas d'image, parce qu'elles sont pas. Où le niveau de vie n'est pas assez intéressant dans la ville. Et dans ce cas-là, il se passe des choses intéressantes. Donc parfois, c'est le gouvernement qui, tant bien que mal, essaie de les gérer encore, mais un gouvernement très faible. Ou parfois, c'est racheté par les citoyens. Voilà, c'est racheté par les habitants de la ville. Et là, du coup, ça permet, et pour moi, ça va être super cool, parce que ça permet de développer énormément d'utopie. Et d'utopie positive. C'est-à-dire qu'il y a des communautés qui vont être super intéressantes. Alors, je vais faire du communisme, je vais faire l'anarchisme, du libertaire, des modèles alternatifs, etc. Quoi, des modèles à tirage au sort, etc. Enfin, il y a plein de types de démocratie et de systèmes anarchistes que je vais montrer. Je vais m'inspirer de ce qui existe aussi dans les communautés. Mais ça permet de montrer tout ça. Et pour le lecteur, bon, moi, c'est intéressant politiquement, parce que le lecteur va se dire, ah ouais, c'est vrai quand même, on pourrait vivre comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, et qu'on n'est pas prisonnier d'un système unique. Donc finalement, et c'est le paradoxe, c'est que l'ultralibéralisme ouvre des poches à l'autogestion finalement. Donc deuxième chose sur la ville, ça c'est ce qui tend à venir aussi, elle sera virtuelle et réelle à la fois, c'est-à-dire qu'il y aura la base physique qui continuera à être contrôlée par une sorte de gouvernance publique-privée, qui sera surveillée et sécurisée donc, par des dispositifs technologiques type drone, hein, qu'on va généraliser aussi, les capteurs on l'a dit. Tout le maillage RFID, ça va être plus RFID qu'on va avoir dans les vêtements, etc., dans les objets. Maintenant, vous ne pourrez plus acheter un pack de lait sans que le pack de lait, on puisse suivre tout son trajet jusqu'à votre frigo, que votre frigo dise à une base de données que le pack de lait commence à être périmé et qu'il faut en racheter, etc. Donc il y a la mise en place d'un maillage comme ça, extrêmement précis, où chaque objet doit donner une information. le principe pour moi de la ville du futur et qui me terrifie, c'est qu'on considère aujourd'hui que tout être vivant, alors que ce soit même les arbres hein, sont pucés à Paris, hein, tout être vivant, végétal ou animal, les moutons sont pucés, bientôt on va pucer les rats un par un, tu vois. Les êtres humains aussi, par les vêtements intelligents auxquels, en vous offrant des services, on vous dira, mais gardez la puce quand même qui est dans le vêtement, parce que ça vous permet d'avoir telle ou telle information, etc. Donc on aura, on demande en fait aux êtres vivants et aux objets, les véhicules, les scooters, etc., d'émettre de l'information. On ne supporte plus qu'un objet soit inerte, on ne supporte plus la gratuité qu'il y a à se déplacer d'un point à un autre sans que ça génère une information utilisable, encore une fois, data mineable par des systèmes algorithmiques. Voilà, donc ça, ça me fait extrêmement peur. Voilà. Donc cette base physique sera polluée par les contre-pouvoirs militants, délinquants, pauvres, hein, ça c'est vu de la gouvernance. Et puis à côté, il y a la couche virtuelle, d'accord. Donc là, on va avoir, effectivement, comme on l'entend dans l'exemple là, on aura une personnalisation du son, et des infos qui sont envoyées sur la personne, non seulement par le portable bien sûr, mais il y a aussi des canons en son par exemple qui sont mis en place, je pense que vous avez entendu parler de ça. Ils balancent deux sons comme ça à fréquences différentes, et à l'endroit où les deux sons se croisent, vous entendez juste vous-même le son et la personne qui est à côté n'entend pas. C'est-à-dire qu'on est en train aussi de privatiser l'espace sonore pour que chaque consommateur puisse entendre le son dont il a besoin. C'est en librairie par exemple, vous êtes devant le rayon philo, bah, vous allez entendre la voix de Deleuze, mais si vous êtes dans le rayon je ne sais pas, des livres de vampires, ben vous aurez... Voilà. Donc, il y a aussi un travail comme ça de marketing sonore qui est en place. Bon, bref, je passe sur ces choses-là, c'est un peu du détail du gadget, mais ensuite, il y a le principe aussi que la ville, à mon sens, deviendra l'interface physique. Voilà. C'est-à-dire que le corps du citoyen, ses pas, ses poses, ses gestes, ses mouvements, va mettre en action une partie de la ville. La structure et le mobilier urbain deviennent des interfaces potentielles, d'accord, que le citoyen peut manipuler directement ou par le smartphone. Et donc, c'est l'idée que, voilà, la ville devient active, et ça, on l'a fait dans Remember Me. La ville du futur nous parle, la rue du futur nous parle, elle nous écoute, elle nous voit, nous sollicite parfois, elle répond à nos sollicitations. Donc, elle devient une sorte d'interlocuteur virtuel à part entière, la ville. Ça, c'est, en tout cas, c'est un des grands rêves de beaucoup de gens dans les gouvernances de ville. Pensez aussi que les écrans souples vont apparaître. Donc, on aura des écrans souples partout, sur toutes les surfaces. Les sols, les murs, les vitres, le mobilier urbain, les véhicules. Attendez-vous à avoir des écrans partout. Et évidemment recouvert éventuellement de publicité et d'informations. Voilà. L'autre chose qui me paraît importante, c'est qu'on risque d'avoir une ville structurée par les ondes. C'est-à-dire qu'on ne va pas le voir, mais c'est les ondes et la position des ondes qui va restructurer de façon un peu invisible la ville. Est-ce que vous voulez que je vous parle de l'intelligence ambiante? Ça, vous connaissez ce truc-là? Ça, c'est intéressant sur la ville aussi. J'aime ça, bonjour ambiante, parce que c'est... En français, ils appellent ça... Enfin, aux États-Unis, ils appellent ça l'ubicomputing, c'est l'informatique pervasive. En France, on appelle ça l'intelligence ambiante, c'est un joli terme, mais ce qui est derrière est assez horrible. Donc, je vous le décris peut-être, vous avez entendu parler de ça ou pas du tout, sur les villes. Donc, le principe, c'est d'abord l'ubiquité, c'est-à-dire que la capacité pour l'utilisateur dans la ville d'interagir partout, n'importe où. Voilà. C'est-à-dire que où que vous soyez, et moi j'appelle ça une forme de sédentarité psychologique, parce que où que vous soyez, vous pouvez agir. Donc, Wi-Fi partout, interconnexion partout, réseau partout, et objets intelligents autour de vous partout pour que vous puissiez interagir avec eux. Ensuite, il y a une sensitivité contextuelle, d'accord. Donc c'est la faculté du système dans l'informatique pervasive, comme ça. Pervasive, c'est-à-dire qui transperce, hein, qui traverse. Donc, à sentir en permanence les objets, les appareils, les personnes, pour prendre en compte le contexte d'usage, c'est-à-dire savoir que vous vous garez, que les gens se garent plutôt ici dans la rue, savoir que les scooters viennent se garer là. Et donc le système anticipe, s'adapte, personnalise, et utilise tous les capteurs dont je vous ai parlé, optique, sonore, thermique, chimique, etc. Dans un exemple de mon livre, comme ça, dans le deuxième chapitre que j'ai toujours pas écrit, hein, on a le gars qui rentre dans la zone commerciale, comme ça, et bon, lui, il supporte pas tout ça, parce qu'évidemment, c'est un sociologue, le personnage est un sociologue, et il travaille pour les villages, il travaille pour les communautés autogérées, et il amène, son spécialité, c'est les modèles dissensuels, c'est-à-dire comment ne pas être d'accord ensemble et faire que les choses marchent quand même. Donc c'est un spécialiste comme ça de la sociologie dissensuelle, et quand il est dans la rue, il supporte pas les capteurs. Donc il a un trajet comme ça où il évite les... Il sait que là il y a un capteur sonore, là il sait qu'il y a un capteur de poids, là il sait qu'il y a un capteur olfactif, là il sait qu'il y a un capteur de kilomètres, et il serpente comme ça. Et à un moment donné, il se plante et il appuie sur une dalle sensitive, tu vois. Et quand il appuie sur la dalle sensitive, hop, ça prend sa pointure, et la dalle en plus voit si t'es en pronation ou supination, si t'as un décalage de hanche, etc. Donc t'as ta pointure, t'as ton poids, T'as la supplication pas. Et 30 mètres plus loin, il y a un magasin de sport. Et sur la vitrine en OLED apparaît lui, parce qu'il a été filmé, qui est reprojeté sur la vitrine et qui marche comme ça, avec des pompes qui sont pour pronateur, qui sont du 42 comme il est du 42, etc. Et avec une promotion immédiate de 20% sur ces pompes-là s'il les achète, etc. Voilà. C'est du délire et on s'amuse avec ça, mais c'est au fond ce qui va se passer. Voilà. C'est-à-dire que c'est utiliser en temps réel les informations sur nous qu'on prélève à notre insu pour nous le restituer et pour s'en servir évidemment pour nous faire acheter des choses. Voilà.
Excuse-moi, ouais. Si tu me permets.
Ouais. Bien sûr, vas-y. C'est déjà.
Ça existe déjà. Le neurocommerce existe. Aux États-Unis, vous avez dans les centres commerciaux des capteurs qui identifient, pas tous, attention, hein, qui identifient votre façon de vous comporter devant des rayons, qui captent vos yeux, comment ils se placent sur les rayons, pour voir combien de temps vous restez sur un rayon, etc., etc. Et à partir de là, toutes les informations sont traitées pour savoir quel est le meilleur rayon, quel est le comportement, selon évidemment que vous êtes homme, femme, blanc, noir, etc., pour adapter tout le merchandising à votre comportement. Et il y a un roman de science-fiction, c'est de Hervé Zencity, je ne sais pas si vous connaissez, qui le met en pratique. Pour effectivement construire une société idéale qui est une société absolument épouvantable parce que vous n'avez plus un moment où vous pouvez vous relâcher parce que vous participez de manière permanente à l'évolution de votre environnement. Et ça, c'est absolument atroce.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une perte complète de la gratuité. C'est-à-dire que demain, et là je passe directement à ce que j'appelle les phagocytés, parce que voilà, je me dis, c'est pas les cités, c'est les phagocytés qu'on va avoir, on est digéré par le système du big data. Le big data est en train de se dissoudre dans la ville, c'est-à-dire que en mettant, comme je vous l'ai dit, des trackers sur tous les objets qu'on utilise, sur tous les véhicules dont on sert, en ayant les trackers évidemment sur la carte bleue dès qu'on consomme, en ayant la géolocalisation permanente quand on se déplace par triangulation, et là ils viennent de le faire dans le parc des Calanques à Marseille d'ailleurs, où tout l'été... Ou si vous baladez avec un portable dans le parc des Calanques, et c'est le cas de 99% des gens, malheureusement, pas moi, hein, moi j'ai jamais eu de portable, j'en aurai jamais, mais voilà, ils vont, comme ça, suivre le trajet des randonneurs, savoir où ils s'arrêtent, par quel pierrier ils passent, dans quel sentier ils vont, combien il y en a sur la plage, etc. C'est-à-dire que, et avant toute l'égalité, en plus, hein, ils l'annoncent dans le journal, avec un partenariat entre le parc national des Calanques et d'Orange, c'est juste hallucinant. Hein. Bon, voilà ce qui nous attend. C'est-à-dire que, comme dit Alain, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'innocence, il n'y aura plus de gratuité. Tout ce que vous allez faire va produire une information. Voilà. Et ça, c'est nouveau parce qu'avant, ça n'existait, j'ai envie de dire, ça n'existait. Ça n'existait que dans l'espace Internet, que dans le virtuel. Il faut savoir que le virtuel, la grande invention, finalement, c'est que c'est un espace absolument tracé. Entièrement tracé. Aujourd'hui, on le sait grâce à NSA, grâce à Snowden, etc. Toute consultation de site, tout clic, tout SMS envoyé, tout mail, tout blog, tout ce que vous faites et le temps que vous y passez, évidemment, laisse une trace numérique. Cette trace numérique est utilisée soit de façon anonyme, soit de façon non anonyme, parce qu'on peut toujours remonter de façon précise à l'émetteur à cause de l'IP de votre ordinateur. Donc ça, à un moment donné, bon, moi j'ai mis longtemps à le comprendre, hein, j'ai mis peut-être 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, je me suis dit, mais voilà, l'espace virtuel est l'espace de... l'absolue aliénation, en tout cas de l'absolu contrôle et l'absolue surveillance, puisque absolument aucun geste ne peut être libre dans cet espace-là. Alors, sauf si vous cryptez, etc. Mais même le cryptage, maintenant, est repéré comme un élément et vous autodénoncez en cryptant, puisque ils ont des algorithmes pour savoir quels gens cryptent ou pas. Bref. Mais, j'avais envie de dire, à part les caméras dans la ville, on se disait, bon, bah, les autres, il n'y a pas de caméras dans la ville, on est peinard, quoi, tu vois. Mais non, ça vient. La ville devient... aussi un panoptique généralisé à cause de ce qu'on appelle l'Internet des objets, quoi. C'est-à-dire à cause du fait que les objets eux-mêmes vont porter un réseau dans lequel vous allez être inséré et que vous-même, au nom de la facilité, au nom de la fluidité, au nom de la communauté de vie, vous allez accepter que votre blouson soit pucé, que vos pompes soient pucées, que votre voiture qui est déjà pucée, qui a déjà une puce dedans, sous prétexte qu'on peut mieux la récupérer si on vous la vole, etc. Bon, bref, donc voilà, donc il y a une couche, pour moi le Big Data va se dissoudre dans la vie, il y aura une couche comme ça qui va se mettre en place. Et c'est pas super rassurant. Après, je vous montrerai comment on peut quand même essayer d'échapper à tout ça, parce que c'est pas très cool. Voilà, donc bon, j'appelle ça des spéculatres, hein, mes délires. Voilà, la ville sera hyper contrôlée, donc je reviens pas là-dessus. Ce qu'a dit Alain sur l'oculomètre, c'est super intéressant, hein, c'est-à-dire le trajet de l'œil sur les boîtes de cornflakes, ils le font, hein, à Paris sur la RATP. Là, vous avez vu les grands panneaux Samsung. le panneau était doté d'un oculomètre pour voir combien de temps vous restez devant le panneau, ce que vous regardez, etc. Ils l'ont enlevé là récemment, parce que les gens ont gueulé quand même, comme quoi il y a un espoir. Mais la capacité à suivre le trajet de la pupille est quand même quelque chose de très neuf et de très, très, très flippant. Quoi. Voilà, le stade ultime, hein, c'est la lecture de pensée, mais pour l'instant c'est très modeste encore. Ils savent faire encore très peu de choses, parce que les ondes de pensée sont bloquées un peu par la boîte crânienne, donc ça arrive très brouillé. Mais en IRM, ils font des trucs incroyables, hein, je vous raconte juste ça. Ils ont fait un test comme ça, ils mettent une femme dans un IRM, et ils lui font passer des sacs. Et donc, il lui passe vingtaine de sacs comme ça, ils la font sortir de l'IRM, et le gars, il lui dit, le sac que vous avez préféré, c'est le sac rouge, là, qui est arrivé à peu près en 8e position dans la liste des sacs que je vous ai montré. Et la fille fait, c'est pas possible et tout. Et si, c'est-à-dire qu'on se rend compte que quand on aime quelque chose, l'énergie utilisée par le cerveau, c'est juste une question de volume sonore presque. Hein. L'énergie du cerveau est plus importante quand on aime quelque chose. Donc ils avaient capté une radiation plus forte sur le sac rouge. Et donc ils avaient fait une forme de lecture de pensée, enfin c'est très basique, hein, tu vois, mais qui leur permettait quand même de... Donc ça, quand, imaginez quand ça va se généraliser, etc. Moi je délire dans les furtifs avec ça, c'est-à-dire que pour que ça marche, il faut qu'il y ait quand même des petits picots dans votre tête pour que l'onde sorte bien. Et donc ils ont fabriqué des bonnets, qui sont vachement hype dans les furtifs, c'est ça, vachement hype. Et les jeunes, ils adorent ça, tu vois, ils mettent les casquettes et les bonnets avec les petits picots qui sont là, tu vois, un peu, je sais pas, moi je suis un peu épileptique quand j'ai eu ces trucs à picots. Et... comme ça, les gamins, ils pilotent par la pensée leur skateboard, leur truc, tu vois, ils n'ont même pas besoin de taper sur le smartphone, ils n'ont même pas besoin de parler. Juste avec la pensée, ils arrivent, vous savez, les handicapés, ils font ça maintenant, ils arrivent à tourner à droite ou à gauche, un handicapé, en entraînant son contrôle de pensée, arrive à le faire, et les jeunes le font, et donc ils acceptent pour un truc super fun de faire ça, et puis évidemment, ils sont contrôlés sur leurs actes de pensée, leurs actes de reconnaissance, parce que ce qu'on arrive à voir, c'est que les gens reconnaissent quelque chose. Si par exemple, vous avez déjà vu un objet, votre cerveau émet une onde à 300 millisecondes. Ils appellent ça l'onde P300. On ne peut rien y faire. Si je vous montre une photo et que vous avez déjà vu cette personne, vous émettez cette onde-là. Et ça, pour les flics et pour les marques, c'est extraordinaire parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'émettre cette onde-là quand on reconnaît quelque chose. C'est un truc que le cerveau fait automatiquement. Et voilà, donc ce type de choses, ils savent l'utiliser aujourd'hui. Bon, bref. Juste les pistes. Alors, les pistes pour s'émanciper vers le futur. Les pistes que je montre justement dans les furtifs, que je mets en place pour les furtifs. Première chose, j'appelle ça les anarchitectes, j'ai pas inventé le terme, mais il y en a plein qui l'utilisent ce terme, je me suis rendu compte après, enfin je croyais l'avoir inventé, donc ça m'a énervé. Mais donc c'est l'idée que dans cette ville privatisée avec les forfaits de base, premium, privilège, les gens ne supportent plus, et donc on décidait chaque soir, il y a un groupe qui s'appelle les anarchitectes, et chaque soir, ils génèrent de l'habitat, ils créent de l'habitat, donc ça peut être des types de cabanes, vous voyez, des cabanes comme ça en carton, ça peut être des cabanes portatives, ça peut être des pièces sac à dos qui sont accrochées avec des câbles sur les façades, ça peut être des systèmes de campement avec des tentes ou des systèmes de bidonvilles qu'on peut mettre en place assez rapidement, ça peut être alors ça c'est très classe, hein, le loft cube sur les toits, et là encore une cabane accrochée au mur, donc ils mettent en place un peu comme ça des systèmes, ils se réapproprient l'espace, mais à partir d'un habitat textile gonflable, mobile, suspendu, avec de la récup, avec des matériaux relativement compacts. Il y a une notion de poétiser aussi la ville, de faire des choses relativement légères, et de faire en sorte que ceux qui n'ont pas de toit, parce que la crise du logement est évidemment maximale, ceux qui n'ont pas de toit puissent récupérer, c'est-à-dire qu'ils ne font pas ça juste de façon éphémère, ce qu'ils ont bâti le soir, alors ils peuvent être 20, 30, 50 selon les soirées, ce qu'ils ont bâti le soir, ils le laissent à des sans-toit, à des gens qui n'ont pas des sans-abri, etc. Et comme ça, ils créent une sorte de repeuplement interstitiel de la ville. Là, je vous montre quelques exemples qui sont assez beaux d'utilisation des palettes. Vous savez que les palettes, on les balance toutes. Et avec les palettes, on peut faire des choses assez, assez, assez magnifiques en termes de logement. Donc là, quelques exemples d'architectes qui ont utilisé les palettes, quoi. Après, j'ai un super délire que j'aime beaucoup dans l'idée de générer comme ça un imaginaire du désir et de réappropriation aussi de la ville. Donc j'ai fait un délire, j'appelle ça les altis. C'est-à-dire que c'est des gens qui vivent sur les toits, qui ont décidé de se réapproprier l'espace des toits, puisque c'est un des seuls espaces qui n'est pas trop saturé actuellement, et ils vivent donc en haut. Alors, ils ont des panneaux solaires portatifs, ils ont des systèmes éoliens pour récupérer l'énergie, ils récupèrent l'eau de pluie dans des châteaux d'eau, ils installent des cubes, etc. Ils ont des rues suspendues, ils utilisent énormément le principe des seaux, des ponts, des cordes, des parapentes, etc. Ils redescendent jamais, ils essayent de rester au maximum sur les toits, ils utilisent beaucoup les tissus, parce que les tissus, ça permet d'abriter, de bouger, etc. Ils se nourrissent avec des oiseaux, ils chassent des oiseaux, enfin bon, il y a un gros délire. Ils piratent beaucoup les antennes aussi, c'est-à-dire ils passent des émissions, ils piratent les télés. Et donc ça devient, voilà, ça devient un mouvement en tant que tel qui habite comme ça sur les toits et qui se... Là, je vous ai mis des photos de ce qu'on appelle les roofers. Je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement. C'est un mouvement de gens qui essaient de monter sur les toits les plus hauts des grandes villes. Vous voyez, c'est des trucs assez hallucinants. Et qui font des exploits de ce type-là. Et puis, alors, les altistes, il y a un jeu de mots. Il y a les solistes aussi. Les solistes, ceux qui habitent dans le sol, qui habitent en souterrain et qui investissent toute la ville souterraine. Voilà, j'appelle aussi des terraristes. Voilà. Et donc, ils ont créé aussi dans les parcs, les parkings, les caves, les égouts, les tunnels, etc. Ils se sont réappropriés la ville là-dedans. Et puis, au milieu, il y a l'inter. C'est les gens qui utilisent tous les espaces interstitiels de la ville. C'est-à-dire, il y a toujours des espaces entre deux zones dans lesquels on peut s'incruster, se mettre. Et tu as un mouvement qui s'appelle l'inter, comme ça, entre les deux. Voilà, les villes altistes, vous voyez, ils sont là-haut et, et ils s'éclatent, quoi. Donc, ça, c'est le premier truc. Donc, premier système de... Non, c'était le deuxième, déjà, ouais, d'émancipation. Troisième idée, et on le voit venir, hein, vous connaissez tous la figure du hacker, du pirate, figure très romantique dans la science-fiction, qui a été inventée et portée par le cyberpunk, mais qui devient aujourd'hui, c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que c'était une figure assez romantique, rigolote, poétique, etc., mais ça devient pour moi aujourd'hui un élément clé dans la lutte contre le technocapitalisme et la technogestion, puisqu'on a un système, voilà, vous connaissez le principe de gouvernance algorithmique, etc., on est de plus en plus gouverné par les algorithmes, par des banques de données, etc., et face à ça, eh ben, il y a tout un ensemble de bugs, de hacks du réseau, de hacks réels. Ce que j'appelle hack réel, c'est-à-dire que vous pouvez hacker les voitures. Il y a des gens qui hackent le système de frein des voitures parce qu'ils sont... Et donc, vous pouvez arrêter une voiture à distance. Vous pouvez aussi faire qu'elle aille contre le mur. Hein, mais il y a des gens qui ont prouvé qu'on pouvait hacker des bagnoles avec système électrique, etc. On peut hacker évidemment les portables, on peut hacker énormément de choses. Donc, c'est ce qu'on appelle le hack réel, le hack d'objet. Donc, l'erreur système pour bonheur, la production de micro-chaos techniques, c'est-à-dire que vous avez vu peut-être Watch Dogs, le jeu vidéo. Donc, on hack les feux routiers, on déglingue la circulation en hackant le système de circulation des feux routiers. Les climatisations, parce qu'il y a la domotique qui arrive de plus en plus, donc on va pouvoir fermer maintenant, si vous voulez délirer, et fermer à distance la villa de votre voisin, vous allez pouvoir le faire. Bloquer sa climatisation, dégeler le frigo, etc. Tout ça étant piloté technologiquement, vous allez pouvoir aussi le hacker. Voilà, hacker les caméras de surveillance, hacker les systèmes de diffusion télé, faire du black art électrique, ça a été fait aussi. Voilà, moi j'appelle ça l'errorisme, forme aboutie du terrorisme. Non, c'était le délire dans la zone dehors, mais je tiens à ça, c'est-à-dire de dire, moi je pense qu'on manque d'action directe, voilà, on manque d'action directe au sens où on entendait dans les années 70, hein, le groupe Action Directe a préempté le mot, mais ça signifiait quoi? Ça signifiait de faire des actions qui sont justement, bah, on va droit vers le problème, on occupe... les banques qui doivent être occupées, on va sur le terrain, etc. Et on crée des erreurs. Et je pense qu'aujourd'hui, le système est tellement lisse, tellement géré, tellement fin, qu'on va devoir le bugger régulièrement pour refaire apparaître des choses qui sont agréables à vivre. Voilà. Je vais aussi aller vite sur les communs, le retour aux communs, ça c'est quand même une très belle chose. Vous savez qu'il y a toujours la grande tension entre le gouvernement et le public-privé. Mais on voit que les élus obéissent pas du tout à ce qu'on aimerait qu'ils fassent. On voit que le privé, évidemment, est là pour faire du profit. Et entre ces deux énormes pôles, il y a le commun. C'est la faculté par les citoyens de se réapproprier les ressources communes. Donc ça, c'est la troisième voie. C'est très relancé hein, dans les pays scandinaves, dans les pays en Allemagne aussi. Quoi. Voilà. Donc c'est dire que les ressources, on doit les gérer en commun. On doit arrêter qu'elles soient confisquées et par l'État et par les pouvoirs privés. Et donc, remettre en commun les sous-sols, les toits de la ville, les espaces interstitiels, les zones... Hein, les fameuses ZAD, hein, moi j'aime pas le mot zone à défendre, j'aime bien l'idée de zone à dilater, au contraire je trouve qu'on devrait faire pousser ces zones-là. Voilà, ce que j'aimerais, là je vais juste prendre le temps de lire ce slide parce que pour moi il est important, c'est de dire, voilà, vous savez que le mot émancipé, je pense que vous connaissez l'étymologie ou sinon je vais vous faire 10 secondes là-dessus. Moi j'adore ce mot, émancipé, je trouve qu'il est beaucoup plus fort que libéré, et donc c'est prendre en main. Et émanciper au départ, c'était, si vous connaissez l'histoire, c'était des esclaves, en fait, quand vous aviez devant vous des esclaves, et que pour choisir l'esclave, vous alliez lui prendre la main. Et tac, en prenant la main de l'esclave et en le tirant, vous avez décidé que c'était lui que vous choisissiez. Et donc, être émancipé, ça veut dire être prisonnier et être dépendant d'un maître qui va vous diriger et auquel vous allez obéir. Et émanciper, c'est le fameux ex, hein, qui veut dire en dehors de. C'est pour ça que j'adore aussi, d'ailleurs, quand on dit mon ex, ton ex, etc. C'est génial parce que c'est la personne qui, maintenant, n'est plus avec toi. Elle est en dehors de toi, elle est en dehors de ta vie. Quoi. C'est le ex, quoi, tu vois. Et émanciper, ben voilà, c'est sortir de cet état de prise en main. Quoi. C'est arrêter d'être pris en main. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, et la force du techno-capitalisme, ça a été ça, et c'est ça. C'est qu'en nous vendant de la commodité, en nous vendant de la paresse, en nous vendant de la fluidité, en nous vendant de la facilité de vie, etc., on est arrivé non plus à un Big Brother hyper dictatorial et pyramidal au-dessus de nous, on est arrivé à un Big Mother, c'est-à-dire une sorte de mère couvante qui nous accompagne à tous les moments de notre vie. Notre smartphone, c'est notre Big Mother, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois elle nous contrôle et elle nous aide, comme ça. Et il faut qu'on lâche la main de cette mère-là, quoi, de cette maman-là, pour essayer de justement arriver à une sorte de vivre libre dans le cadre de la ville. Donc voilà, je vous dis un peu les phrases que c'est pour moi important. Là où la ville pacifie, donc à force de lumière blanche, à force d'optronique civile, de surveillance et de transparence, à nous d'opacifier, voilà, je crée une opposition entre pacifier et opacifier. Là où la ville gère les flux et contrôle le mouvement, il faut devenir déraisonnable, et là je vais faire un jeu de mots mais que j'aime bien, hein, déraisonnable, c'est ressortir du réseau. Moi, j'ai pas de portable, par exemple. Il y a des moments où il faut sortir complètement, déconnecter, devenir furtif, savoir s'immobiliser dans le contretemps, dans la syncope par rapport au rythme imposé dans l'espace urbain, dériver, disjoncter, vivre hors champ, devenir une ombre, frapper, fuir, disparaître, libérer les zones, avec les fameuses stases aussi. Là où la ville lisse les surfaces, lisse les designs, les visages et les messages, lisse les pratiques, à nous de plisser ou de plier, de redonner du relief et du grain à l'humain. Voilà. Ça me paraît important, c'est retrouver une forme d'étrangeté, de relief, de grain, mettre des clameurs dans la ville qui vont diffuser un son différent, varier l'utilisation des espaces et leur investissement, etc. J'ai mis aussi mener une vie de déchets, c'est-à-dire une vie de déchets dans un système où on hygiénise tout, où on lisse tout. Là où la ville s'ultra-libéralise et hiérarchise l'espace par l'argent, parce que c'est vraiment ce qui se passe, bah, redonner vie au commun, on en a parlé. Le légal n'est pas le légitime, il faut savoir désobéir, il faut savoir aussi étendre le territoire affectif et effectif de la gratuité, plutôt que de tout marchandiser, plutôt de tout monétiser. L'amour, le don, l'heure de prix. Là où la ville multiplie les coupures et les interfaces technologiques et déploie ses dispositifs de mise à distance du monde, couper court, court-circuiter, chercher le rapport direct, la chaleur, tous les corps à corps, les face à face, qui pour moi sont les plus-values propres à la ville. Voilà. Si la ville a un sens, c'est qu'elle nous met ensemble, ici et maintenant, à partager dans des mêmes lieux. Et si c'est pour être dans des mêmes lieux et regarder, avoir un concert et tous être avec son smartphone à filmer, c'est dans des lieux communs, dans un café, et puis tous être devant l'écran à faire ça, et tout médier par le technococon, c'est pas la peine d'être en ville. Quoi. Voilà. Dans ce cas-là, il faut arrêter. Il faut retrouver la plus-value de la ville, c'est qu'on est ensemble, comme ici, en face les uns des autres, à générer de l'énergie et du lien. Quoi. Voilà. Et enfin, là où on prétend nous donner un pouvoir individuel toujours par la technique, chercher plutôt la puissance collective. C'est pas l'outil, c'est pas l'appli qui nous libère et qui nous empuissante, c'est les liens qui libèrent. Vous connaissez cette maison d'édition qui s'appelle Les Liens qui libèrent. J'adore ce titre. Voilà. Donc je reviens, je dois être aussi réac que Barjavel, je reviens aussi moi à des projets à taille humaine. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, moi c'est au-dessus de 500 personnes que je considère que ça commence à déconner. Et quand on voit les communautés anthropologiques, c'est souvent à 500. C'est-à-dire qu'au-delà de 500, on n'arrive plus à savoir qui est qui, on commence à être dans l'anonymat, les systèmes, les strates de pouvoir commencent à s'accumuler. Et parfois, il faut recourber l'espace pour redonner de la confiance, pour redonner de la proximité et pour faire qu'on retrouve une forme d'ouverture aux autres qu'on perd à partir d'un certain nombre de gens dans une ville. Quoi. Voilà, moi j'appelle ça l'idée d'avoir des poches poreuses comme ça ou des cellules vivantes où on ne cherche pas le consensus à tout prix, c'est-à-dire on recourbe l'espace mais on ne cherche pas le consensus à tout prix. C'est l'inverse, on essaye de vivre dans le dissensus en respectant l'autre, mais que le dissensus soit dynamique. C'est-à-dire qu'il faut ne pas être d'accord, mais que tout en n'étant pas d'accord, on arrive à agir ensemble. Voilà. Parce que c'est le fait d'être dans l'altérité, c'est le fait d'être des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui nous construit, qui nous grandit, qui nous fait mûrir et qui nous rend plus vaste. Voilà. Moi, je trouve qu'on crève un peu de l'idée que ce qu'a amené Internet, notamment Facebook, etc., c'est qu'on choisit nos amis et donc du coup on est dans des poches où on n'est plus confronté à un moment donné à l'altérité, on n'est plus confronté à ce qui n'est pas comme nous et on définit des poches tellement homogènes qu'on n'a plus cette espèce de choc de l'étrange et de l'étranger qui pourtant à mon avis est super important pour que notre volume intérieur s'accroisse. Voilà. Et puis voilà, et puis après ben, simplement un petit mot pour dire que il y a une réappropriation effectivement dans la ville à faire, ça beaucoup de gens le disent, beaucoup de mouvements politiques le disent. Les jardins partagés, les ateliers de construction, l'atelier de cuisine, faire des jeux ensemble dans la ville, peindre des espaces, se réapproprier des parcs, les occuper, occuper les espaces qui sont été privatisés. Fabriquer le mobilier urbain, moi je ne comprends pas que le mobilier urbain soit fabriqué industriellement. Les gens devraient les fabriquer dans les quartiers, on devrait fabriquer nos bancs, on devrait fabriquer nos barrières, on devrait fabriquer nos abribus. On devrait donner la possibilité aux habitants de le faire. Voilà. Et que la ville porte la marque des gens au lieu de porter la marque de l'industrie ou de la gouvernance. Voilà. Je ne comprends pas qu'à Paris, par exemple, les stations de métro soient pas. On ne donne pas les stations de métro entièrement à décorer à des gens, à des groupes, à des artistes, et qu'on n'ait pas les stations de métro qui chacune soient totalement singulières et individualisées. On crève de cette uniformité du carreau blanc et voilà. Bon, bref. Et de déco. Voilà. Merci à vous.